Afrique.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce jeudi pour votre rendez-vous de Washington Forum. Cette semaine, la Côte d'Ivoire, une semaine pleine de rebondissements. Après la colère des militaires, les chefs des forces de sécurité ont été limogés par décret présidentiel. Guillaume Soro réélu à la tête de l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre Daniel Kablan-Duncan nommé vice-président et la nomination d'un nouveau gouvernement. Alors les militaires sont-ils définitivement rentrés dans les rangs? Qui est réellement derrière cette mutinerie? Et puis avec cette nomination, la guerre de succession est-elle réglée pour de bon? Tant de questions que nous vous proposons d'aborder tout de suite dans Washington Forum. Bienvenue à vous dans Washington Forum. Après avoir changé de constitution, la Côte d'Ivoire vient de se munir d'un nouveau gouvernement. Pas de surprise majeure, mais de grands défis en perspective pour le premier gouvernement de la Troisième République. Les détails avec Arzouma Compaoré.
Après la dissolution du gouvernement en début de semaine, le président Alassane Ouattara a procédé mardi à la nomination de l'ex-premier ministre Daniel Kablan-Duncan au poste de vice-président, un poste nouvellement créé par la réforme constitutionnelle de novembre dernier. Dans la foulée, Guillaume Soro est réélu à la tête de l'Assemblée nationale pour un deuxième mandat. Il est désormais relégué au quatrième rang dans l'ordre protocolaire tel que stipulé dans la nouvelle constitution. Amadou Gan Koulibaly, 57 ans, précédemment ministre d'État et secrétaire général de la présidence de la République, est nommé Premier ministre par le chef de l'État. Il est immédiatement chargé de mettre sur pied une nouvelle équipe gouvernementale. Celle-ci se compose de 28 membres contre 35 dans le précédent gouvernement. La plupart des grands ministères restent. Les ministres de l'Intérieur Ahmed Bagayoko, des Affaires étrangères Marcel Amontano, de la Justice Sansan Kambilé, de l'Éducation nationale Kandia Camara, des Mines et Industries Jean-Claude Brou conservent leur fauteuil. Parmi les sortants, 7 au total, Adama Tungara, ancien puissant ministre du pétrole et de l'énergie, mais aussi maire de la commune d'Abobo, Afousiata Bamba Lamine, ancienne porte-parole de la rébellion, et Rémi Alakwadio, qui était à la tête du ministère de l'Environnement pendant près d'une décennie.
Et nos invités en direct depuis Abidjan, Narita Namasté, vous êtes la correspondante de VOA Afrique sur place. Et puis Claude Saïssou-Mauro, vous êtes politologue. Et puis nous aurons peut-être tout à l'heure Joël Nguessan du RDR si la ligne passe. Et enfin sur ce plateau avec nous, David Bani, vous êtes président du Parti patriotique progressiste de la diaspora ici à Washington. On va tout de suite prendre la direction de la capitale ivoirienne avec vous, Narita. Ça a été une semaine intense hein, sur le plan politique, un jeu de chaises musicales. Comment les Ivoiriens ont-ils vécu tous ces changements?
Bonsoir Tatiana et bonsoir à tous, merci. Effectivement, cette semaine en Côte d'Ivoire a été une semaine d'actualité politique très chargée pour la Côte d'Ivoire d'ailleurs. D'abord avec la grande des militaires en activité, cette révolution. Qui réclament le saignement des prix, des augmentations de sol, une promotion peu rapide entre les grades et les mouvements, un mouvement de contestation qui s'est très vite répandu à plusieurs villes, avait même touché l'un des plus grands fonds
Narita,
de la Côte d'Ivoire.
On a un petit peu de mal à vous entendre. Est-ce qu'on peut revenir essentiellement sur le gouvernement, le nouveau gouvernement en place, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr, il faut...
Allez-y, on vous écoute, Narita.
Ok, il faut signifier que la mise en place de ce nouveau gouvernement a été sans surprise. Les Ivoiriens s'y attendaient la nomination au poste de vice-président avec M. Daniel Kablan-Duncan. La nomination de M. Amadou Gan Koulibaly a été sans surprise pour les Ivoiriens. Ils s'y attendaient qu'il y avait un accord entre le rassemblement des opposants qui avait été cédé il y a quelques années, où le poste de vice-président devait revenir au PDCI-CDA. C'est ce qui a été fait. Ouattara a respecté en haut cet accord. Ce qu'il faut retenir, Ouattara n'avait pas vraiment besoin d'un politique comme vice-président pour ces dernières années, qui lui laisse à passer à la tête de la présidence ivoirienne. Lui, il avait plusieurs fois dit qu'il ne pouvait représentera pas en 2020, mais plutôt il avait besoin d'un homme de terrain et d'un camp comme un footballeur, en plus d'être son ami et son meneur de jeu, et bon plus-value comme buteur.
D'accord. Autre question, Guillaume Soro, sans surprise réelle aussi là, à l'Assemblée nationale, sa réélection.
Ben justement, la réélection de Guillaume Soro, comme les autres, comme Gonkoulibaly, comme Daniel Cablan-Duncan, a été sans surprise pour les Ivoiriens.
Pour quelle raison, justement, Guillaume Soro a-t-il été réélu aussi facilement à l'Assemblée nationale?
Il était le candidat unique du RHDP. Il n'avait pas vraiment de concurrent en face, mais en plus, qui s'était présenté déjà en indépendant et qui n'avait pas vraiment une force au niveau de l'Assemblée nationale. Alors donc, Guillaume Soro, un peu candidat à sa propre succession, était vraiment, avait le chemin libre pour être réélu.
Une voie royale, alors. Claude Saïs Soumaoro, on se pose la question de savoir aujourd'hui quel va être le rôle du vice-président Cablan-Duncan. Concrètement, qu'est-ce qu'il va faire?
Alors, il faudrait qu'une précision soit faite. En réalité, la Côte d'Ivoire, avec toutes les difficultés qu'elle a connues, avait besoin que l'élément fondamental qui cristallisait toutes les crises sociales et politiques en Côte d'Ivoire, qui était la Constitution, soit toiletté. Donc, à partir de ce moment-là, il fallait extirper tous les éléments conflictuels qui pouvaient faire de la Côte d'Ivoire un deuxième brasier après ce que le pays avait connu en 2010. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que cette Constitution permet à la Côte d'Ivoire d'entrer dans cette Troisième République avec des réformes réalisées au niveau de l'État et au niveau de l'espace du jeu démocratique. Si bien que dans une cohérence et une question de stabilité, c'est ce que je crois, et c'est comme cela que j'ai analysé la situation, le président de la République est élu sous la forme d'un ticket avec un vice-président pour régler définitivement la question de la succession. Dans nos États africains, la majeure partie des crises que nous vivons proviennent de la mauvaise gestion des questions électorales. À partir du moment où la question de l'exécutif est définitivement réglée à travers un ticket gagnant, il est bien évident que le vice-président assure la vacance du pouvoir, assure l'intérim du président de la République, mais est aussi celui qui va relayer l'action du président sous sa forme un peu plus, sous une forme de complicité, parce que c'est lui-là sera sans aucune difficulté celui qui portera les efforts du président toutes les fois que des problèmes se posent. Regardez au Ghana. Lorsque Atamis décède, il n'y a aucun conflit d'intérêts, il n'y a aucun conflit politique.
C'est très clair, mais la question quand même au jour le jour, ça c'est en cas de crise, en cas de vacances du pouvoir, mais la question au jour le jour, quotidiennement, qu'est-ce que fait un vice-président ? Que le président ne fait pas ou que le premier ministre ne fait pas, par exemple?
C'est une très bonne question parce que vous émettez depuis les États-Unis et lorsque le président Obama n'est pas là, que fait Joe Biden? Voilà la question qu'on pose. C'est dans cette optique-là. Le vice-président supplée le président de la République. Voilà, il le supplée, il assure la vacance en cas de difficulté. Mais en période normale, il est celui qui supplée le président de la République exactement. L'expérience que la Côte d'Ivoire a tenté de faire avec le législatif, avec les députés,
effectivement,
parce que depuis 2011, la Côte d'Ivoire a un député élu, mais en même temps qu'un suppléant. C'est lui donc qui supplée le député élu. Vous comprenez?
Oui, exactement. Alors, si vous permettez, Monsieur Soumaoro, sur les premiers éclairages que vous nous donnez, j'aimerais faire réagir David Bagny. Alors, David Bagny, est-ce que vous pensez que ce poste était indispensable pour, comme vient de le dire Monsieur Soumaoro, un petit peu toiletter la Constitution? Est-ce que ce poste était indispensable selon vous?
Merci de me recevoir. Je voudrais dire que moi, je suis de la nouvelle génération et je constate les choses différemment. Et je pense que le poste de vice-président est la raison même pour laquelle il y a tous ces soulèvements en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Afrique, le poste de vice-président, ça veut dire que si le président n'est pas là, c'est toi qui es le dauphin.
Mais c'est un poste qui n'existait pas avant. Hein.
Ça n'existait pas avant. Avant, c'était le président de l'Assemblée nationale qui assurait l'intérim pour 3 mois. Donc, vous savez, la façon dont le chef de l'État il conduit son gouvernement, il dirige le pays sans consulter le peuple, je pense que on va aller de plus en plus dans les difficultés.
Il y a eu un référendum pour le changement de la Constitution, pour aller vers la Troisième République.
Le référendum de la Constitution, je ne sais pas si ça a obtenu l'approbation de toute la population, mais la participation, la majorité de la population. Parce que, par exemple, l'article qui intéressait particulièrement le chef de l'État, c'est ce qui le concerne, c'est-à-dire pour lui permettre d'être encore candidat. La diaspora a été ignorée dans cette nouvelle constitution. Parce que dans cette constitution, par exemple, il est dit que si tu as passé 5 ans dehors de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas venir postuler une position dans le gouvernement comme maire, député, tout ça. Je pensais que ça aussi, ça allait changer dans la constitution. Parce que la diaspora joue un grand rôle sur le plan économique, sur le plan social du pays. Donc nous pensons que la façon dont ils dirigent le pays, c'est seulement ce qui les arrange. Que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de la constitution, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale. Nous pensons qu'ils vont aller de problème en problème.
Alors, Monsieur Soumaoro, est-ce que vous êtes toujours avec nous?
Oui.
J'aimerais vous faire réagir. Est-ce que vous êtes...
Non. Alors, je vous explique. Vous savez, ce que nous devons essayer de développer dans nos États africains qui font l'apprentissage de la démocratie, c'est de procéder à l'évolution des consciences démocratiques, à l'évolution des consciences citoyennes. L'interlocuteur de tout à l'heure a dit des choses tellement fausses. Vous savez, j'ai un peu assisté, j'ai vu le profil des personnes qui ont été candidates aux élections législatives qui viennent se dérouler il n'y a même pas un mois. Plus d'une trentaine de candidats venaient de la diaspora, que j'ai rencontrés, que j'ai connus, que j'ai approchés, que j'ai souvent même coachés. Plus d'une trentaine viennent de la diaspora. Premier élément. Le deuxième élément que l'interlocuteur ignore sûrement, c'est qu'avec la création du Sénat, vous comprenez, comme deuxième chambre bicamérale, le Parlement, la chambre basse, et le Sénat, la chambre haute, il y a donc une volonté de faire entrer la participation des régions, de faire entrer la diaspora dans cette dynamique de réforme politique qui est en train d'être faite en Côte d'Ivoire. Donc la diaspora n'est pas du tout ignorée, puisqu'il y a d'ailleurs un poste ministériel exclusivement chargé des Ivoiriens de l'étranger. Seulement, la difficulté que nous avons dans nos États, c'est que nous ne nous approprions pas les différents outils démocratiques et les différents outils constitutionnels, et nous parlons sur la base des émotions. Bon, l'émotion n'a pas sa place en politique. Il s'agit simplement de lire les textes, de se rapprocher, mais de voir les limites et les faiblesses des textes qui sont proposés, de sorte à faire, à proposer des alternatives. Sinon, il y a eu plus d'une trentaine de candidats de la diaspora qui ont été candidats à l'élection législative qui vient de se passer.
Monsieur Soumaoro, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que justement ce changement de constitution, les nominations qui ont été faites et la redistribution des cartes sur l'échiquier politique tel qu'il l'est à l'heure actuelle, est-ce qu'il peut prémunir d'une crise politique en Côte d'Ivoire? Et là, j'aimerais vous aller sur la question de la succession. Est-ce qu'on pourrait éviter, comme à la fin du pouvoir du président Houphouët, on pourrait éviter un vide constitutionnel?
Une constitution n'est jamais parfaite. Une constitution n'est jamais parfaite. L'homme tend à la rendre parfaite. L'homme tend à la rendre acceptable pour la majorité des personnes qui vivent sur le territoire, sur la nation dans laquelle cette constitution-là est faite et elle est proposée. Donc elle n'est jamais parfaite. Ce qu'il faut accepter, c'est qu'il y ait le jeu démocratique. Et que chaque structure politique fasse des propositions et se présente comme des alternatives. Il y a un élément essentiel que nous devons préciser, madame. Vous savez, depuis la mort du président Houphouët Boigny, qui est le père de la Côte d'Ivoire moderne, 4 personnalités politiques ont dominé la vie politique et sociale en Côte d'Ivoire. Le premier ministre, l'ancien premier ministre Alassane Ouattara, qui était le premier ministre du président Houphouët Boigny, le président
on
de l'Assemblée
va aller rapidement
nationale,
parce qu'on va devoir aller à la pause.
Oui, le président de l'Assemblée nationale, le président Gbagbo et le général Robert Guéï. Ces 4 personnalités ont dominé la vie politique et nous sommes à la fin d'un cycle en train d'assister à un changement de génération et un renouvellement du personnel politique. Donc, à travers cette constitution, je pense que ceux qui l'ont proposée, à travers l'adoption qui a été faite par les représentants du peuple à l'Assemblée, sont en train de laisser un héritage qui est sûrement perfectible.
Alors, donc, on va revenir.
on la perfectionne.
On va revenir sur la succession rapidement tout à l'heure, mais on va déjà prendre les réactions Facebook, puisque vous avez été nombreux à réagir sur la page de Facebook de VOA Afrique. Alors, nous avons dans les réactions Fréjus Akoumia en Côte d'Ivoire qui nous dit « Moi, je ne crois pas que la guerre de succession est terminée, car il y a encore Amadou Soumaoro et Ahmed Bakayoko. Il y a encore Hugues Akakpo au Bénin qui nous dit « Soro va vouloir se positionner en fin de mandat de Ouattara, alors que c'est le vice-président actuel qui est pressenti pour être le dauphin. L'hypocrisie entre les deux prétendants va durer jusqu'à quand ?» Alors, malheureusement, on va devoir déjà marquer une courte pause. On se retrouve tout de suite après. On va revenir sur la question de succession. À tout de suite.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Djamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
De retour dans ce Washington Forum, la deuxième partie de cette émission est consacrée à cette grogne des militaires mutins qui sont déterminés à obtenir gain de cause. Mais avant de revenir là-dessus, j'aimerais que vous répondiez à Monsieur Soumaoro rapidement.
Oui, je voudrais répondre sur ça pour dire que je ne parle pas sur l'émotion, je parle sur les tests. Moi, je suis juriste. Et la Constitution, à ce que je sache, n'a pas été modifiée pour dire que les Ivoiriens, pour enlever cette partie qui dit que les Ivoiriens qui ont passé plus de 5 ans à l'étranger peuvent revenir. C'est peut-être une faveur que le chef de l'État fait, bien fait, on ferme les yeux là-dessus. C'est bon que les gens aillent participer aux élections. Mais réellement, est-ce que dans la Constitution, cela a été changé? Non, à ce que je sache.
D'accord. Rapidement, sur la succession, M. Soumaoro, si vous êtes toujours avec nous, j'aimerais qu'on revienne, que vous répondiez rapidement à cette question. Est-ce que le problème de succession, ou du moins ceux qui ont des interrogations sur la succession, à la fin du mandat, ou s'il y a vacance de pouvoir, est-ce que cette nomination règle tout?
Non. Je suis très peiné de voir que les questions de succession à l'orée de l'élection, de la réélection du président Ouattara se posent de cette façon-là. Vous savez, ce n'est pas très simple, premier élément. Le deuxième élément, c'est que être président de la République est une rencontre qu'une personnalité a avec son destin et avec un peuple. Si des personnes, parce que vous ne citez que deux ou trois cas pour l'instant, mais il y a bien d'autres personnes qui pensent avoir un destin national, qui se découvriront. Le plus important, c'est d'atténuer les velléités de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, pour des questions politiques, pour des questions de positionnement, ne retombe pas dans les travers de la guerre et des crises que nous avons connues. C'est ça le plus important. Donc, ne pas se focaliser sur une question de succession, mais plutôt voir une question de renouvellement de la classe politique.
Effectivement.
Et d'un passage de flambeau d'une génération à une autre.
Effectivement.
C'est tout cet angle que j'apprécie.
On va déjà devoir passer à notre deuxième partie. Donc, je vous le disais, cette grogne des militaires qui étaient déterminés à obtenir gain de cause. Ils ont bloqué le 6 janvier dernier l'accès de 5 villes du pays, d'Aloa, d'Aoukro, Korogo, Odiéné et Boaké. Alors, c'est la deuxième mutinerie depuis l'arrivée au pouvoir du président Ouattara en 2011. Retour sur les événements avec Salwa Jafari.
Sur les 5 kilomètres qui mènent à la ville de Boaké, chauffeurs de voitures et camions-citernes attendent l'air soucieux la reprise de la circulation. Les casques bleus dépêchés en urgence font également la queue. Au bout de la route, des soldats font barrage.
Ben, on nous dit qu'il y a la mutinerie, on ne peut pas passer. Il y a une histoire de salaires qui n'ont pas été payés, bon, voilà, quelque chose comme ça.
C'est la deuxième mutinerie depuis l'arrivée au pouvoir du président Ouattara en 2011. La revendication est la même, un meilleur salaire, des primes et une retraite. Et pour se faire entendre, des tirs d'intimidation dans la nuit à Boaké, à Korogo, comme à Bondoukou, dans le nord-est. Les mutineries ont également touché la capitale économique du pays, Abidjan, où les insurgés ont fait feu. sur les bâtiments de l'état-major de l'armée avant de s'engouffrer dans ceux du ministère de la Défense. Le ministre de la Défense est d'ailleurs dépêché à Boisquet pour parlementer avec les mutins. Les militaires se seraient mis en colère et l'auraient empêché de quitter la résidence. Il a fini par être libéré juste avant minuit. Le samedi 7 janvier, Alassane Ouattara annonce avoir accédé aux revendications des soldats.
Je confirme mon accord pour la prise en compte des revendications relatives aux primes.
Les mutins sont visiblement satisfaits.
On est content pour voir que vraiment c'est un président qui veut l'avenir de son pays et qui n'est pas au courant de beaucoup de choses, mais qui, dès qu'il est au courant, il prend une décision favorable.
Le lendemain, le président limoge ses chefs de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Depuis, la situation semble être rentrée dans l'ordre, mais pour beaucoup, cette mutinerie a les traits d'une véritable fracture au sein de la grande muette ivoirienne. Les événements de la semaine dernière mettent en lumière la difficulté pour la Côte d'Ivoire d'avoir une armée unifiée sous la même bannière.
Alors Narité, vous êtes toujours avec nous en ligne depuis Abidjan. De nouveaux tirs étaient encore entendus aujourd'hui à Boisquet. Est-ce que vous avez plus de précisions ?
Oui, Tatiana, c'est cet après-midi, il y avait une réunion qui se tenait dans un camp militaire à Boisquet en vue de préparer l'arrivée du ministre en charge de la Défense qui est prévue pour demain vendredi. Et à la sortie de cette réunion, c'était un tiré en l'air. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ce n'était pas pour des revendications. Mais les tirs n'ont pas duré plus de 5 minutes. Les revendications sont pareilles. Et les pourparlers ont abouti à un accord qui sûrement sera exécuté ce vendredi. Et nous attendons l'arrivée du ministre à Boisquet pour voir réellement ce qu'il y en est.
Alors, en tout cas, la situation est revenue au calme et les négociations, en tout cas les discussions avec le ministre devraient être conclues demain. Narita, vous continuerez de nous tenir informés et restez sur voafrique.com pour avoir plus de détails. Alors, la question, j'ai envie de vous poser cette question-là, David Bani. Comment on en est arrivé là ? Cette grogne des militaires, à quoi elle est due ? Est-ce que c'est vraiment uniquement une revendication des soldes ?
Oui, je voudrais d'abord dire que, vous savez, quand vous cherchez l'information en Côte d'Ivoire, la vraie information, c'est comme aller dans le bois sacré. Parce que tout se passe dans le noir. Et pour ce qui concerne les mutins, c'est une situation profonde et complexe. Ça a commencé depuis très longtemps. D'abord, l'armée ivoirienne... sous le président Houphouët-Boigny, c'était une toute petite armée avec les Français, parce que Houphouët comptait sur les Français. Et quand le président Gbagbo est venu, il a essayé de reformer l'armée. Même quand la rébellion est venue, la rébellion était vraiment un grand nombre plus que l'armée. Donc l'armée ivoirienne n'a jamais vraiment existé, c'est un petit nombre. Et maintenant, dans cette armée que nous avons aujourd'hui, qui comprend, je dirais, trois ou plusieurs parties, parce qu'il y a l'armée sous Gbagbo, les FDS, avec les rebelles qui sont venus, qui sont contrôlés par Soro Guillaume, et puis ceux qui sont venus, on n'en parle pas peut-être, mais quand Blaise était au pouvoir, il a envoyé des gens qui aidaient le chef de l'État Alassane Ouattara à prendre le pouvoir. Donc l'armée est vraiment composée de différentes personnes et c'est très compliqué.
Alors David Soumaoro, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Où en est le processus d'intégration, par exemple, des anciens rebelles ? Comment s'est passée la réconciliation des deux factions, les FDS et les FRCI ?
D'accord. Alors, deux questions en une. La première, le préalable que je voulais rappeler, c'est que il faudrait qu'on comprenne, madame, qu'on ne sort pas d'une guerre comme celle que nous avons vécue, c'est quelqu'un qui l'a dit, comme si l'on sortait d'un dîner gala. Non. Sortie d'une guerre engendre beaucoup de méfaits. Vous avez beaucoup de personnes qui n'ont pas le droit de porter des armes qui les portent. Et réussir donc à stabiliser cela était déjà un exploit. Il faudrait qu'on le dise, pas parce qu'on fait de la politique, parce qu'il faut faire la politique pour le plus grand nombre de personnes, premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'accord politique de Ouagadougou, qui avait été signé en 2007 entre la rébellion et le président Gbagbo, prévoyait que près de 5000 personnes devaient intégrer la nouvelle armée. Nous sommes aujourd'hui à près de 8000 personnes, c'est-à-dire 3000 de plus ont intégré l'armée. Il y a le fait qu'en Afrique, nos armées ne sont pas des armées professionnelles. Donc une nouvelle loi de programmation militaire et de programmation de sécurité qui a été votée en 2016 par le Parlement ivoirien permettra de reconstruire tous ces bâtiments détruits, tout le matériel obsolète. Et vous savez qu'il n'y a même plus d'esprit de corps et il y a un dysfonctionnement dans la chaîne de commandement. une altération dans l'esprit du corps. Il y a une question. C'est tout un programme qu'il faut reprendre, mais méthodiquement, calmement et patiemment, premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'armée est le reflet de la société. La Côte d'Ivoire, ayant vécu cette crise profonde, dont les relents d'hésitation et de crainte subissent encore, cela se répercute au niveau de l'armée. Donc, il n'y a que le commandement, les grands commandements, qui peuvent amener les uns et les autres à aller dans le sens de la modernisation que nous voulons.
Et selon vous, le décret qui a été pris par le président Ouattara, qui a été de limoger plusieurs chefs des forces de sécurité à la suite de la mutinerie, c'est un signe, c'est une marque, c'est une façon d'avancer justement pour réformer cette armée?
Oui. Oui. Oui, non, vous savez que les fondements d'un État puisent ses racines dans le principe même de la hiérarchie. Dès l'instant où le subalterne, l'officier subalterne, l'officier de rang n'est plus capable d'accorder le moindre respect à sa hiérarchie, il faut bien agir. Parce que l'armée, c'est aussi l'ordre, c'est aussi la hiérarchie. Donc il fallait, au-delà de la dimension politique, procéder à une réforme des grands commandements. N'oubliez pas qu'en Côte d'Ivoire, depuis que le président Ouattara est arrivé au pouvoir, il a créé ce qu'on appelle le Conseil national de sécurité qu'il préside lui-même toutes les semaines.
Effectivement. On va être obligé d'aller très vite sur cette question, malheureusement. Mais en tout cas, on retiendra une chose, c'est qu'il faut une réforme profonde de l'armée ivoirienne pour qu'elle soit unifiée à cause du passé entre la rébellion et les différentes armées, les différentes formes qu'a pris l'armée ivoirienne. Et on va prendre cette réaction de Facebook d'Alphonse Boaki en RDC qui nous dit « Je ne crois pas que les militaires soient rentrés définitivement dans les rangs si leurs revendications ne sont pas satisfaites. L'État doit construire des casernes, il faut un budget social conséquent pour l'armée. » Ça revient sur ce que M. Soumaoro a dit et sur ce que vous avez dit aussi. Et avant de refermer ce numéro, on prend tout de suite la direction de Libreville où s'ouvre cette semaine la 31e Coupe d'Afrique des Nations, le Gabon qui accueille cette édition. Timothée Donangmaï.
Bonjour Tatiana, bonjour à tous. Je me trouve ici devant le stade de l'amitié de Libreville où va démarrer et se clôturer la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Cette 31e édition marque aussi le 60e anniversaire de la compétition qui a été lancée en 1957 au Soudan, une édition remportée par l'Égypte. Alors, la notable exception du Nigeria, tous les habitués de cette compétition se sont donné rendez-vous ici au Gabon à cette occasion. La Côte d'Ivoire championne en titre, le Ghana, l'Égypte, le Cameroun, la RDC, le Burkina Faso et le petit poussé de cette édition, la Guinée-Bissau qui en est à sa première participation. Côté engouement populaire, quelques soucis. Certains parlent de l'impact de la crise économique, d'autres parlent d'une crise électorale qui n'a pas été complètement résolue. En tout cas, les Africains attendent impatiemment que les Gabonais les aident à célébrer en pompe cette grande messe du football africain. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Et merci Timothée, notre envoyé spécial qui vous fera vivre cette compétition sur nos antennes. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous nos invités d'Abidjan à Washington. Merci pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique ainsi qu'à la RTI à Abidjan qui diffuse Washington Forum. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.